On va passer à la communication suivante, toujours faite à deux voix, autour de l'émergence des domaines disciplinaires. Et on prendra cette fois-ci pour exemple, à la croisée des chaires et des collections, la question de l'hébreu. Alors, peut-être que c'est Pierre Naon qui va prendre. Peter Naon, pardon, qui va prendre d'abord la parole. Puis okay, Laurent et Richer.
Je vous la mets en place.
Je vais en profiter pour les présenter. Donc, Peter Naon qui va parler en premier. L'archiviste paléographe, il a consacré sa thèse à la linguistique, justement. Hein, dialecte la langue des communautés juives du Midi de la France. Et vous collaborez actuellement aux travaux du Collège de France auprès de M. Romer.
Tout à fait. C'est ça ?
Je vous laisse la parole.
Je vous remercie et merci aux organisateurs de la journée et à M. l'administrateur du Collège de France d'avoir proposé d'assurer la suppléance de l'orateur qui devait parler aujourd'hui à ma place. Alors, dans les travaux de cet après-midi, on sera amené à s'occuper plus d'une fois de la question des domaines disciplinaires, mais surtout de leur émergence. Dans le cas de l'hébreu, cette question de l'émergence d'un domaine scientifique est particulièrement pertinente, parce qu'on peut clairement observer comment, à l'époque moderne, peu à peu, une discipline philologique proprement dite, se détache de l'étude de la langue seule, de la langue hébraïque, et surtout de la langue vue comme un moyen d'accès au texte de la Bible. Alors, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, il faut rappeler que s'interroger sur l'émergence d'un domaine disciplinaire, c'est d'abord se pencher sur l'histoire, la prosopographie en quelque sorte, comme on le fait un peu depuis ce matin, de ceux qui y ont contribué par leurs travaux, mais aussi sur les outils et les matériaux de cette élaboration intellectuelle, à savoir les livres, les deux volets complémentaires de notre journée, le collège et la bibliothèque. En France, en tout cas, c'est véritablement au Collège de France que sont pour la première fois réunies les conditions qui permettent la constitution, l'élaboration d'un véritable domaine de savoir indépendant autour de l'étude de l'hébreu. En effet, dès la fondation du Collège royal, l'hébreu a été représenté non par un lecteur, mais déjà par deux, Vatable et Guidassier, j'y reviendrai. Et dès l'année suivante, en 1531, une troisième chaire d'hébreu est créée en faveur de Paul Paradis, un protégé de Marguerite de Navarre. Ce qui est d'autant plus considérable que la faculté de théologie de la Sorbonne ne possédait pas de chaire d'hébreu, et surtout si on considère la proportion de l'hébreu par rapport aux autres disciplines qui font l'objet d'un enseignement au collège à ce moment-là, trois lecteurs royaux d'hébreu pour deux de grec et un de mathématiques, et c'est tout. Alors, comme on sait, François Ier avait conçu le projet de son collège royal dès son avènement en 1515. Mais les guerres d'Italie, la difficulté aussi de trouver des professeurs compétents, ne lui ont pas permis dès lors d'aboutir à la fondation du collège royal, et ça a dû attendre une quinzaine d'années. En 1530, quand les lecteurs royaux d'hébreu ont commencé d'enseigner, la situation était déjà différente. Entre-temps, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on avait fondé à Oxford le collège de Corpus Christi, le collège Saint-Jérôme à Rome, le collège des trois langues à Louvain en 1517. Pratiquement la même année, on avait réformé l'université d'Alcala de Henares en Espagne. Et toutes ces institutions, dès leur fondation ou leur réforme, comportaient des chaires d'hébreu. Fondé donc dans ces années-là. En 1530, également dans l'espace germanique, Strasbourg et Bâle disposaient déjà depuis plusieurs années de cours d'hébreu. On était donc déjà assez loin de l'époque, pas très ancienne, mais du XVe siècle, où quand il s'agissait d'expliquer un texte hébreu, on devait l'affronter à peu près comme Champollion devant la pierre de Rosette, avec des glossaires obscurs et en traduisant mot à mot. Déjà, on était passé à une époque où le savoir hébraïque était quand même plus développé et plus accessible. Déjà, déjà, des manuels rudimentaires existaient. Conrad Pélican en 1503, Reuchlin, le grand hébraïsant allemand, dès 1506, avait publié des petites méthodes. En 1518, c'est la date absolument décisive de la publication de la Nova Translatio, la nouvelle traduction de la Bible hébraïque en latin, la première traduction faite sur les originaux depuis la Vulgate de Saint Jérôme et ses diverses révisions. Alors l'objectif, c'était l'italien Pagnini qui en était l'auteur. L'objectif n'était pas de remplacer la Vulgate, ce qui aurait été évidemment sacré. En tout cas, l'objectif déclaré n'était pas de remplacer la Vulgate, mais de procurer un outil pédagogique qui permette en fait de suivre mot à mot, avec une traduction littérale, le texte hébreu des Juifs. En 1517, on imprime également à Venise, chez Bomberg, la première Bible hébraïque rabbinique, c'est-à-dire qui comporte les commentaires rabbiniques, la Massore, le commentaire de Rashi, la traduction araméenne dite Targum, j'en reparlerai. La même année, on achevait également la première Bible polyglotte, la Bible d'Alcala, faite avec des nouveaux chrétiens d'origine juive qui ont contribué donc, à cette Bible qui mettait côte à côte le texte hébreu, le grec de la Septante, le latin de Saint Jérôme et la traduction araméenne, enfin une des traductions araméennes des Juifs, un de ces textes donc appelé Targum. Déjà, on associe à l'étude de l'hébreu celle de l'araméen, donc de cette langue de traduction employée par les rabbins, mais qui est également langue de quelques passages de la Bible, dans le livre de Daniel et le livre d'Esdras. La grammaire, la première grammaire de l'araméen est publiée en 1527 par Münster, déjà un dictionnaire araméen compilé par le grammairien juif Levita avait été publié en 1514 par Fagius, à Strasbourg. Donc, tout cela pour montrer qu'en 1530, l'hébreu avait déjà commencé à gagner sa place dans l'horizon intellectuel des lettrés de l'Occident chrétien. Mais pour revenir en France, finalement, même avant François Ier, il y avait eu une espèce de tradition hébraïsante locale. Alors, sans remonter aux temps médiévaux, au XIIe siècle, où les religieux de Saint-Victor déjà recouraient à l'hébraïca veritas et se documentaient auprès des rabbins pour connaître leur méthode d'exégèse, il y avait eu, au XVe siècle, semble-t-il, des professeurs d'hébreu et de chaldéen, donc d'araméen, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils enseignaient ni à qui. En 1517, un Génois, Justiniani, donnait déjà un cours d'hébreu et on a gardé aussi le souvenir d'un certain Jérôme Aléandre qui professait également des leçons d'hébreu à Paris à la même époque. C'est vraisemblablement lui qui a appris l'hébreu à Vatable, François Vatable, un prêtre picard, qui a été le premier lecteur d'hébreu du Collège de France. Tout se tient finalement. Le premier donc nommé par François Ier, auquel ont été adjoints d'abord un Italien, un Calabrais, Guy d'Acerius, qui professait l'hébreu à Rome et qui a dû fuir Rome après le sac de Rome lors des guerres d'Italie. Et puis, dans un second temps, donc Paul Paradis, un juif converti d'origine vénitienne, qui était un des protégés de Marguerite de Navarre. Alors, dans l'initiative de François Ier d'instituer un enseignement d'hébreu, ce qui était le plus révolutionnaire, finalement, c'était de créer un enseignement d'hébreu qui échappait au monopole théologique de la Sorbonne, des docteurs de la Sorbonne, puisque l'hébreu étant la langue de la Bible et a priori rien d'autre à ce moment-là, c'était une discipline qui relevait entièrement de la théologie. Alors évidemment, les docteurs de Sorbonne n'ont pas tardé à réagir, ils se sont réunis le 30 avril 1530 à la chapelle Saint-Mathurin, déclarent téméraire et scandaleuse l'institution de chaire d'hébreu, et la thèse implicite finalement que sous-tendait l'établissement de chaire d'hébreu, à savoir que la Sainte Écriture ne se peut bonnement enseigner sans la langue grecque, hébraïque et autres semblables. C'était en ça que consistait le sacrilège. En 1534, la faculté de théologie intente même aux lecteurs royaux un procès devant le Parlement de Paris et les accuse d'avoir délivré une interprétation des textes sacrés sans avoir pris la peine de recevoir une véritable formation théologique qui les y autorisait. On craint, d'après ce conseil des Sorbonnagres, si je puis employer le mot de Rabelais, qu'ils ne taxent ou dérogent à la translation de la Sainte Écriture dont use l'Église romaine ou occidentale, et Paris sait l'approuver, il y a environ 1100 ans. Alors, la finalité première de cet enseignement, c'était en fait bien de rendre accessible à tous le texte original de la Bible et de donner effectivement aux auditeurs les moyens d'y appliquer cette lecture fine et minutieuse, cette lecture philologique à laquelle les humanistes, d'abord en Italie puis déjà en France, depuis plus d'un siècle en Italie, soumettaient déjà toute la littérature classique, toute la littérature ancienne. Il s'agissait donc déjà d'appliquer cette méthode-là à la Bible, et ça suscitait un véritable enthousiasme, un véritable engouement, qui était par ailleurs une branche à la fois de cet engouement humaniste et de cet autre engouement biblique qui est très fort à l'époque, cet enthousiasme dont participaient Érasme, Lefèvre d'Étaples et toutes ces figures bien connues. Vatable lui-même, le premier lecteur d'Hébreu, était dès 1520 un membre du fameux cercle de Meaux, autour de Lefèvre d'Étaples et de Brissonnet, ce cercle qui était attaché déjà à la vulgarisation des Écritures et qui a en quelque sorte anticipé les premiers mouvements de la réforme protestante en France et autour de Marguerite de Navarre. Alors, c'est vraiment dans cette atmosphère d'un bouillonnement philologico-exégétique, si je puis dire, que naît l'hébraïsme français. On se pressait, au cours d'Hébreu, des lecteurs royaux du collège de France. Ils étaient annoncés déjà dès le début en ville par des placards, des affiches. On connaît toutes ces affiches plus récentes, mais déjà dans les années 1530, on a retrouvé un de ces placards de 1533. C'est André Caco qui en a publié un extrait. Ça mérite d'être cité. Car non seulement ça nous montre comment finalement on faisait de la réclame pour ces cours, mais aussi le contenu des cours. Alors, ça disait ceci. Agathias Guidacerius, professeur royal, continuera au collège de Cambrai ses leçons sur les psaumes en étudiant le psaume 20e le mardi à 2h. Un de ses jeunes élèves exposera l'alphabet hébraïque et la grammaire de Qimri, grammairien du Moyen-Âge. Plusieurs grammairiens portent ce nom. Mais bon. On vend des exemplaires de ce dernier ouvrage chez Chrétien Véchel, à l'enseigne de l'écu de Bâle. François Vatable, professeur royal en langue hébraïque, continuera lundi à 1h après-midi son interprétation des psaumes. Paul Paradis, interprète royal en langue hébraïque, reprendra le lundi à 10h en commençant par les rudiments, la grammaire de Paganini qu'il a étudiée dans les précédentes leçons, et il entreprendra le commentaire des proverbes de Salomon. Alors on a déjà là, en 1534 en substance, les deux aspects qui restent ensuite le fer de lance des études hébraïques françaises, au Collège de France comme ailleurs. D'un côté, l'aspect pratique avec l'étude minutieuse des textes, ce que Caco appelait la tradition analytique du Collège de France, de l'analyse des textes donc, et à côté de cet aspect pratique, l'aspect théorique avec l'étude de la grammaire. Alors, l'étude de la grammaire, c'était, dès le début, finalement, on a tort parfois d'opposer les hébraïsants chrétiens aux hébraïsants juifs, parce que dès le début, c'était, comme on le lit dans ce programme, l'étude des grammaires faites par des juifs. L'étude des grammaires juives médiévales, notamment les grammaires, les traités produits par les trois grammairiens de la famille Qimri, Moïse, David et Joseph, c'est les grammairiens provençaux du Moyen-Âge central. Donc l'étude de la grammaire juive médiévale et l'élaboration progressive d'un discours linguistique qui s'en affranchit peu à peu, d'une approche théorique nouvelle, d'un vocabulaire technique pour appréhender les réalités de la langue hébraïque et d'un système de concepts opérant pour rendre compte de la langue hébraïque partant du modèle théorique de la grammaire latine, mais s'affranchissant peu à peu des cadres et du vocabulaire de la tradition grammaticale antique. Alors, au XVIe siècle, ce processus d'élaboration d'une science grammaticale, c'est pleinement et entièrement l'œuvre des lecteurs d'hébreu du collège. Ce sont bien eux, alors Jean Cinq-Arbre, qui enseigne de 1554 à 1587, Gilbert Génébrard, qui enseigne de 1566 à 1591. C'est bien eux, donc, qui dominent toute la production scientifique grammaticale jusqu'à la fin du siècle. Et quand ce ne sont pas des professeurs, enfin des lecteurs du Collège Royal, ce sont leurs élèves. Le plus novateur et aussi peut-être le plus lu de tous les grammairiens de l'hébreu à l'époque, à la fin du XVIe siècle, Pierre Martin, un protestant de La Rochelle, avait été l'élève aussi bien de Génébrard que de Jean Mercier, un autre de ses lecteurs d'hébreu au XVIe siècle au Collège de France. La grammaire de Martin, qui a été très largement diffusée, imprimée en plusieurs éditions, copiée par presque tous les grammairiens du XVIIe siècle, à commencer par le Balois Buxtorf, dont la grammaire, qui finalement, quand on lit les premières pages, Buxtorf a complètement plagié la grammaire de Martin. Ça a été repéré en son temps par la regrettée Sophie Kessler-Mesquich. Et de là, en fait, la grammaire de Martin est à la tête d'une sorte de stéma philologique de toutes les grammaires hébraïques du XVIIe siècle, qui sont toutes plus ou moins des descendantes cette grammaire de Martin, y compris la célèbre grammaire hébraïque de Spinoza, par exemple, qui est peut-être la plus célèbre pour d'autres raisons. Et en fait, toutes ces grammaires-là reprennent le vocabulaire qui est celui de Martin et de Génébrard et des lecteurs royaux. Sans s'étendre donc sur tous les détails techniques, quel vocabulaire, quel néologisme, etc., l'apport du collège dans la conception de la grammaire hébraïque moderne est tout à fait considérable, aussi bien directement qu'indirectement. Pour l'aspect pratique, donc l'étude des textes, la postérité de cette tradition analytique n'est pas moindre. Alors, pour rappeler le système de cette méthode analytique, on prenait un livre biblique, comme on a vu dans le programme, les psaumes ou les proverbes de Salomon ou tout autre texte de la Bible hébraïque, et on le suivait en verset par verset, en accompagnant la traduction et l'explication, au sens étymologique, le déploiement du texte, de commentaires de tous ordres. Les lecteurs royaux, donc, non seulement diffusaient une connaissance de l'hébreu et de la Bible hébraïque, mais inauguraient aussi une méthode d'étude, une méthode d'étude philologique, d'étude du texte, qui était vouée à durer. Alors, d'année en année, les programmes des cours d'hébreu du Collège de France, ceux qu'on a conservés montrent une fidélité absolue à cette méthode. On inscrivait donc un texte au programme et on le lisait, on le traduisait en le glosant et en recourant aux divers commentaires grammaticaux et aux commentaires littéraux qui étaient disponibles. Jusqu'à Ernest Renan, et même après, mais ce sera du ressort de la communication suivante, jusqu'à Ernest Renan, c'est comme ça qu'on procédait. On trouve une phrase de Renan dans le sténogramme d'un de ses cours en 1886, où il explique que l'esprit des cours du Collège de France n'est pas de travailler sur des sujets élaborés. Ce sont des cours essentiellement analytiques. On prend un texte et on le suit. Ces cours ont pour but de découvrir et d'apprendre à découvrir. On dispose même d'un témoignage d'Alfred Loisy, qui confirme qu'il assistait donc au cours de Renan et qui nous explique que Renan, lorsqu'il choisissait d'expliquer un psaume, par exemple, examinait son texte. Alors, s'agissant d'un psaume hémistiche par hémistiche, les psaumes sont composés en hémistiche, enfin deux, parfois trois hémistiches par verset, s'attachait à expliquer les variations de la Septante, donc de la traduction grecque ancienne, par rapport au texte hébraïque, puisqu'on se rendait déjà, enfin, on s'était rendu compte depuis bien longtemps que la Septante n'avait pas été traduite sur le même texte hébreu que celui qu'avaient conservé les Juifs. Il examinait les conjectures de la critique biblique, il restituait même des passages en écriture paléo-hébraïque, c'est-à-dire l'ancienne écriture archaïque qui a vraisemblablement été employée dans les premiers temps de la composition du texte biblique après avoir été, avant d'être remplacée par l'écriture carrée qui est en fait l'écriture araméenne. L'intérêt de tout ça étant de voir s'il y avait pu avoir des confusions d'ordre paléo géographique dans des possibles originaux écrits en proto-sémitique, en paléo-hébraïque. Hein. Et on apprend également de Loisy qu'à ce rythme-là, on avançait à peu près à un rythme de 5 versets par heure. Ce qui donne une idée de la nature de ces enseignements. Alors l'attachement très fort au sens grammatical, au sens littéral, était tout à fait conforme à la version à la vocation du Collège de France, puisque finalement dès le début, il s'agissait d'affranchir et de dépouiller l'étude du texte sacré de tous les étages d'interprétation dont les traditions religieuses chrétienne et même juive l'avait surchargé, les sens allégoriques, tropologiques et anagogiques de l'exégèse médiévale étaient évacués pour ne s'occuper que du texte, du sens littéral. Alors peut-être que cette obsession du sens littéral a empêché les lecteurs du collège de s'occuper finalement de ce qu'on a appelé après la critique biblique, c'est-à-dire de rechercher finalement au-delà du sens seul la genèse du texte dans ses diverses phases historiques et aussi la question finalement qui est ressortie bien plus tard de la fonction originelle, qu'est-ce qu'avaient été ces textes avant d'être un texte sacré. Tout ce dont s'est occupé la critique biblique dès la fin du XVIIe et que le Collège de France, dans un certain sens, a manqué. La critique biblique, ça commence en fait avec Richard Simon, un oratorien, un prêtre catholique de l'oratoire, qui a été le premier, pas tout à fait le premier, mais disons qui est retenu maintenant comme le premier à avoir de manière synthétique considéré la Bible comme un ensemble de livres ayant chacun eu leur histoire et par conséquent leur propre développement, et de chercher dans le texte lui-même les traces laissées par ces états successifs et par ces différentes étapes de composition. Alors cette tentative de traiter l'histoire du texte au-delà du texte lui-même a été étouffée assez vite, notamment par Bossuet. C'est une histoire assez connue. Richard Simon, d'ailleurs, avait entrepris de traduire directement. C'est la première traduction qui a été faite directement de l'hébreu au français du texte biblique. Cette traduction a été perdue parce que finalement Bossuet et la censure ont convaincu Richard Simon de la brûler quelques années avant sa mort. Alors heureusement, on a conservé un manuscrit fragmentaire très peu connu qui donne une idée de ce système de traduction extrêmement critique avec renvoi à tous les états du texte. Enfin, un travail tout à fait novateur dont cet échantillon donne une idée du caractère. Mais alors, à part ce mouvement assez isolé de Richard Simon, la critique biblique, donc toute cette vision scientifique-là, a été bannie aussi bien de l'enseignement du Collège Royal que dans l'ensemble des études hébraïques en France. Alors il y a eu tout de même une exception à ça au XVIIIe siècle, et c'était au Collège de France. C'est en 1753, un lecteur royal, Jean Astruc, en lisant la Genèse, s'est rendu compte, ce qui était déjà plus ou moins pressenti par Richard Simon, de l'idée qu'il y avait différents états textuels qui avaient été combinés dans le texte actuel du Pentateuque et qu'on pouvait les différencier en voyant quel nom était employé pour désigner Dieu dans les différents passages du Pentateuque. Alors il a publié ça sous la forme d'un mémoire, des conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Mais Astruc n'était pas lecteur d'hébreu ici, il était lecteur de médecine. Il est d'ailleurs bien connu pour toutes sortes de travaux qui ont fait date dans l'histoire de la médecine. Et par ce décalage disciplinaire, il n'a eu en fait presque aucun écho en France. À la même époque, on s'occupait d'ailleurs bien peu de philologie et le discours sur la Bible était à peu près monopolisé par les polémiques anti-religieuses des encyclopédistes et surtout de Voltaire. Comme l'écrivait Renan lui-même, le succès de Voltaire tua l'érudition en France. On n'avait pas voulu de la science sérieuse, libre et grave. Richard Simon, on eut la bouffonnerie, l'incrédulité railleuse et superficielle, l'exégèse de la polissonnerie. Renan a d'ailleurs reproché à son prédécesseur immédiat, Quatremer, qui occupa la chaire d'Hébreu jusqu'en 1857, d'être resté complètement ignorant de ce qui s'était fait en critique biblique et même de ce qui se faisait au même moment, au début du 19e, en Allemagne, ce sur quoi la communication suivante développera. Renan lui-même s'était un petit peu mis à l'école des Allemands, mais il faut reconnaître qu'en matière d'études bibliques, il était quand même bien en deçà de la Wissenschaft des Judentums, la science du judaïsme qui se développait en Allemagne, mais ça n'est pas mon sujet. Là où, peut-être pour finir, la chaire d'Hébreu du Collège de France a pu tout de même trouver un moyen d'élargir son angle d'attaque au-delà de la pure explication grammaticale du texte sacré, c'est en attelant à l'étude grammaticale de l'hébreu celle également grammaticale, mais des langues orientales, c'est-à-dire des langues sémitiques autres que l'hébreu, et en particulier de l'araméen, des différents états historiques de l'araméen, syriaque et chaldéen, même de l'arabe, dont déjà des rabbins médiévaux avaient reconnu les affinités avec l'hébreu. L'araméen, qui était depuis le XVIe siècle un auxiliaire des études hébraïques, en quelque sorte, avait été intégré dans l'étude de l'hébreu, non seulement, comme j'ai dit, à cause des textes bibliques écrits en araméen, mais surtout parce que c'est la langue d'une grande partie des commentaires juifs de la Bible et de paraphrases, de traductions commentées de l'Antiquité. Et dès le XVIe siècle, on l'associait, et ça c'était généralement le fait des lecteurs royaux, mais aussi de Martin, par exemple, dans la grammaire de Martin, il y a la grammaire hébraïque de Martin, il y a un appendice, une grammaire araméenne, en ce que l'araméen diffère de l'hébreu, c'est-à-dire qu'on donnait en fait les moyens pour passer à l'étude de l'araméen une fois qu'on savait déjà l'hébreu. L'étude de l'araméen s'érige en domaine à part, précisément au Collège de France, parce que l'araméen, c'est aussi l'araméen chrétien, le syriaque, le syriaque fait au Collège de France l'objet d'un enseignement distinct dès le début du XVIIIe. Et alors, à partir de là, c'est la porte ouverte au premier pas du comparatisme. Déjà en 1737, le lecteur d'hébreu Nicolas Henry consacre un de ses cours à une comparaison entre l'hébreu et les langues orientales. À la mort de Desguignes, qui s'occupait du syriaque, on réunit la chaire de syriaque à celle d'hébreu, qui devient donc chaire d'hébreu et de syriaque. En 1800, elle devient chaire d'hébreu, de syriaque et de chaldéen. C'est cette chaire-là dont hérite Renan en 1861, avec l'idée de la transformer en une chaire de langue sémitique comparée. Pour toutes sortes de raisons administratives, cet intitulé a été rejeté, mais ça n'empêche pas Renan, dans son enseignement, d'appliquer l'idée d'une comparaison linguistique des différentes langues sémitiques dans son enseignement au Collège de France, qui d'ailleurs fait la part belle à l'étude des inscriptions sémitiques. Tout ça contribuant à réunir dans cet enseignement toujours la critique fondée sur l'analyse philologique des textes et à partir de là l'étude des inscriptions, c'est-à-dire des documents contemporains de la Bible. Sous Renan, la philologie hébraïque, pour conclure, rattrape son retard du XVIIe et du XVIIIe siècle, dépasse, progresse enfin, on entre dans une phase moderne de la discipline. Renan, en 1861, expliquait encore contenu de sa chaire de la manière suivante. La chaire de langue hébraïque, chaldaïque et syriaque au Collège de France est donc une chaire purement profane, une chaire scientifique et non théologique, une chaire philologique et historique. Et c'est tout à fait sur ce mouvement-là qu'on entre dans la phase moderne de l'enseignement et du développement de la discipline philologique hébraïque. Et c'est là que je remercie.
Merci beaucoup à Peter Nahon de nous avoir dressé ce tableau qui nous a emmené des... J'ai bien aimé votre expression de bouillonnement philologico-biblique du début du XVIe jusqu'au XIXe. Et on va poursuivre avec Laurent Hériché, effectivement, sur cette histoire de l'enseignement de l'hébreu au XIXe. Laurent Hériché est conservateur à la Bibliothèque nationale, en charge de l'ensemble des manuscrits orientaux. C'est un bel empire. Il est plus précisément spécialiste des manuscrits hébreux. Je vous passe la parole.
Merci Isabelle. Je vais moi aussi remercier les organisateurs de me donner la possibilité de vous parler donc de ce fonds hébreu. Merci à mon savant collègue Peter Nahon pour cette magnifique panorama de l'histoire de la chaire d'hébreu et des enjeux qui lui sont liés. Et j'ai souhaité vous présenter une figure, un professeur au Collège de France en particulier, parce qu'il est assez atypique, et peut-être revenir à la fois sur sa contribution, la contribution qu'il a faite aux manuscrits hébreux, au département des manuscrits, mais aussi à la connaissance et à une approche scientifique du judaïsme. Donc Salomon Munk est un des professeurs donc, du Collège de France, un des professeurs d'hébreu du Collège de France. Il a exercé pendant très peu de temps, il a exercé pendant 3 ans, donc à la toute fin de sa vie, dans des circonstances très particulières, puisque vous le savez sans doute, il était devenu aveugle. Il était devenu aveugle comme beaucoup des conservateurs d'ailleurs du département des manuscrits et des conservateurs de la Bibliothèque nationale. C'était probablement dû aux mauvaises conditions de travail et à la faible luminosité dans le cabinet qui ne permettait certainement pas, enfin qui n'était pas sans poser problème, et certainement des problèmes de vue, donc des problèmes qui d'ailleurs s'étaient manifestés un peu avant. Alors c'est une personnalité vraiment, je dirais, à part, puisque en fait dans tout ce panorama que nous adressait Peter, eh bien, il faut bien constater une chose, c'est qu'il n'y a pas de juifs en France pendant quasiment, on va dire, trois siècles et demi, peut-être même 4 siècles. Alors il y aura peut-être des présences juives à Paris, des individus, des médecins. Il y avait même certainement un minyan dans le Marais, pas très loin de la rue du Vieille du Temple. Mais il n'y a pas de juifs en France. Et ce savoir hébreu, ce savoir sur la Bible, il se construit simplement sur l'étude des textes, selon une façon donc, que Peter a détaillée, qui est très intéressante, qui est marquée par un littéralisme, par cette approche très littérale. À partir de la Bible, on s'intéresse essentiellement à la Bible. Littéral, c'est une approche c'est une méthode qui est partagée par les Juifs eux-mêmes, puisque il est traditionnellement, l'hébreu est traditionnellement, l'hébreu et la Bible sont traditionnellement enseignés selon des traductions littérales que l'on appelle soit ladino chez les Juifs qui sont hispanophones ou taïch chez les Juifs ashkenaz, chumash taïch. C'est à un mot en hébreu correspond un mot dans la langue vernaculaire qui sert à la traduction, et c'est toujours le même, à moins que ne s'y opposent des considérations exégétiques. Alors, je souhaiterais revenir peut-être sur 2 points particuliers de la carrière de Munk, et en particulier donc sa contribution au catalogue, parce que c'est quelque chose qui est très important, qui rejoint certaines choses qui nous ont été dites sur l'état des catalogues et le souci qu'on a eu à un moment donné à la bibliothèque impériale de donner des catalogues au public qui étaient dignes de ce nom, et aussi quelques accroissements très intéressants que Munch, quelques acquisitions très intéressantes que Munch va faire pour la bibliothèque royale, puisqu'il aura été à la fois donc employé de la bibliothèque royale, mais il aura été aussi employé de la bibliothèque pendant quelques brefs mois de la bibliothèque impériale. Alors, quelques mots rapides sur le lieu de naissance, enfin, sur l'origine de la famille Munch. Donc, il est né à Großglogau, qui se trouve en une ville de Silésie, une communauté juive assez ancienne, pratiquement implantée à Guglau depuis 6 siècles. Son père était Shamash. Alors, on a l'habitude de dire qu'il était bedeau de la synagogue, ce qui n'était pas vrai. Il était fonctionnaire de la communauté. Il était Shamash parce qu'il se définissait lui-même comme un serviteur. C'est le sens même de ce mot Shamash, de la communauté, mais il était chargé de traduire de l'hébreu en allemand des pièces ou des actes civils de membres de la communauté. Et Munch a eu une éducation hébraïque classique avec son père comme professeur jusqu'à ce qu'il rejoigne la yeshiva. Alors, j'arrive pas à passer. Oui, la suivante. Je n'arrive pas à me débarrasser du menu. Alors, si, comme ça. Voilà. Non, ça y est, je pense que ça va aller. Voilà. Voilà, donc je vais parler un peu de son parcours. Alors, d'abord en Allemagne, puisqu'il va d'abord étudier à Berlin. À l'université de Berlin, puis il va étudier à Bonn. Il va délaisser l'enseignement de la philosophie qu'il avait commencé à étudier avec Hegel pour se spécialiser dans l'étude des langues orientales. Et c'est là où on prend en fait la conscience que Munch ne se destine pas à être un spécialiste hébreu. Il connaît très bien l'hébreu, il connaît bien les textes traditionnels juifs, la Bible, les commentaires traditionnels qui figurent dans les éditions imprimées de la Bible, mais Munch s'intéresse à d'autres langues, et notamment il apprend l'arabe et il apprend le persan et le sanskrit. Et lorsqu'il arrive à Paris, eh bien, la première chose qu'il fait en 1828, c'est de suivre les cours au Collège de France, où il suit les cours de Sassy, il suit les cours de Chézy et il suit les cours de Persan. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le choix que Munch fait de venir à Paris, qui est un choix à la fois qui est dicté par le fait que les Juifs en Prusse ne peuvent pas faire carrière dans l'administration, sauf s'ils se convertissent au christianisme, et donc ça n'est absolument pas son souhait, son désir. Et également, il vient à Paris parce que Paris est un centre important des études orientales et des études des langues orientales, plus particulièrement au Collège de France. Alors, il lui faut bien sûr survivre à ce moment-là, et il va, grâce à des relations, il est en fait très proche de la famille Meyerbeer, enfin d'un des frères, Michel Baer, qui est un poète, qui est mort assez jeune à Munich dans les années 1830, en 1832, qui est le frère de Giacomo Meyerbeer, qui est ce compositeur qui vit à Paris, et qui le recommande à la famille Rothschild, et il est le précepteur de Auguste de Rothschild. Donc, pour gagner sa vie, il est obligé de fréquenter un certain nombre de donner des cours particuliers et également d'écrire un certain nombre d'articles, ces articles qui lui permettent de gagner sa vie, jusqu'à ce qu'il soit présenté à l'administrateur donc de la bibliothèque impériale, le trône, et qu'il décide d'écrire une lettre au ministre. Et cette lettre au ministre, en 1832, alors que il vient d'arriver à Paris depuis 4 ans, il est à Paris depuis 1828, donc il établit, il a fréquenté beaucoup la salle de lecture du département des manuscrits, et il écrit une lettre au ministre où il décrit l'état des catalogues des manuscrits hébreux. Alors, je vais lire une partie de cette lettre. Alors, Monsieur le ministre, la sollicitude et le haut intérêt que vous portez au perfectionnement des établissements littéraires de la France me font espérer votre indulgence. Si, quoique étranger, sans nom ni vocation, j'ose vous soumettre quelques observations sur une classe de manuscrits qui, jusqu'à présent, a été en quelque sorte négligée et qui pourtant mérite tout votre intérêt. Je veux parler des manuscrits hébreux, rabbiniques, chaldéens et syriaques, dont le catalogue est loin de donner une notion tant soit peu exacte. Dans mes nombreuses recherches, j'ai été très souvent désappointé en trouvant dans les manuscrits demandés tout autre chose que ce qui m'avait été indiqué par le catalogue, et d'autres fois, j'ai eu la joie de découvrir dans ces manuscrits des monuments curieux et importants auxquels j'étais loin de m'attendre. Donc, cette situation des catalogues très très imparfaits, bien sûr, nous l'avons déjà, il a déjà été évoqué dans une précédente intervention, mais dans le cas des manuscrits hébreux, c'est particulièrement criant, puisque il n'y a à l'époque, donc en 1840, à la Bibliothèque royale, il n'y a qu'un seul catalogue imprimé des manuscrits hébreux, c'est le catalogue de 1739. Les fonds qui sont rentrés après cette date ne sont pas catalogués. Donc les fonds des saisies révolutionnaires, la bibliothèque de la Sorbonne, la bibliothèque de l'Oratoire, le supplément hébreu n'ont pas de catalogue. Donc je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de la littérature syriaque. On sait combien elle renferme de trésors pour l'étude de l'histoire ecclésiastique, et l'on sait encore que la langue syriaque, premier moyen de communication entre les Grecs et les Orientaux au Moyen-Âge, servit la première à faire passer les œuvres classiques de l'Antiquité entre les mains des Arabes. Ce sont ces traductions syriaques qui doivent nous fournir les premières données pour juger quelle a été l'influence que la littérature grecque peut avoir exercée sur les Arabes et dans quel état elle leur est parvenue. Les manuscrits hébreux rabbiniques pourraient plutôt avoir besoin d'une espèce d'apologie, et je dois entrer là-dessus dans quelques détails. Il est maintenant trop connu pour que les manuscrits de ce... Il est vrai que tout ce qui a rapport à l'exégèse biblique, au Talmud, au rite des Juifs, est maintenant trop connu. Donc, visiblement, cette partie-là ne l'intéresse pas. Pour que les manuscrits de ce genre puissent encore autrement attirer l'attention des savants que dans un intérêt de bibliographie. Mais il y a une circonstance qui m'a frappé et qui, à mon avis, mérite d'être prise en considération. C'est qu'un grand nombre des ouvrages scientifiques des musulmans, que l'on chercherait en vain parmi les manuscrits arabes, ont été conservés par les rabbins, soit qu'ils les aient copiés dans la langue originale, mais avec les caractères rabbiniques, soit qu'ils les aient traduits en hébreu. Ceci a eu lieu pour beaucoup d'ouvrages de médecine et de mathématiques, mais surtout pour la philosophie, à laquelle les rabbins du Moyen-Âge se vouaient avec zèle et un succès étonnant. Donc, ce sur quoi Munch attire l'attention, c'est que ces catalogues sont malheureusement insuffisants pour permettre de connaître ce contenu qui est certainement beaucoup plus intéressant parce qu'il recèle de nombreux textes qui n'ont pas encore fait l'objet d'études, et surtout ils se font hébreux auxquels on s'intéressait peut-être surtout pour la Bible ou pour la littérature rabbinique, devrait susciter un intérêt chez de nombreux scientifiques, aux philosophes parce qu'on y trouve dans les traductions en hébreu des textes dont on a perdu l'original arabe. Ceci a lieu donc pour beaucoup d'ouvrages de médecine et de mathématiques, mais étant destiné à cultiver en même temps les études philosophiques et la littérature orientale, j'ai commencé à faire quelques recherches sur la philosophie arabe, mais la collection des manuscrits arabes de la Bibliothèque royale ne m'a offert que très peu d'ouvrages importants sur cette matière. En revanche, j'ai trouvé parmi les manuscrits hébreux des œuvres de philosophes arabes les plus célèbres, tels qu'Avicenne, Averroès, Al-Ghazali, Al-Farabi et d'autres, traduites en hébreu ou copiées dans leur langue originale, mais en caractère hébreu. D'autre part, on voit en fait la façon dont Munch conçoit ce travail d'érudition. Il n'aborde pas ces textes uniquement ou le font uniquement du point de vue de la connaissance de l'hébreu, mais il convoque d'autres savoirs, d'autres connaissances, et la connaissance de l'arabe en particulier, cette connaissance qui était particulièrement développée, puisque en 1840, Crémieux, qui se rend en Égypte à l'occasion d'une affaire, l'affaire de Damas, demande à Munch de le rejoindre en tant que traducteur d'arabe. Donc, en 1840, quelques mois justement avant de partir en Égypte, en mission avec Crémieux, défendre les Juifs accusés d'un meurtre rituel à Damas, il est donc recruté à la Bibliothèque royale et il remplace le sanskritiste qui malheureusement est décédé, Loiseleur des Longchamps, et il a comme mission d'établir le catalogue des manuscrits sanskrits. Notre hébraïsant est en fait d'abord un sanskritiste parce qu'il a suivi donc les cours de Chézy au Collège de France. Grâce aux archives dont nous avons, je crois, abondamment parlé aujourd'hui, et celles que nous conservons effectivement au département des manuscrits, vous avez ici le dossier du personnel, le dossier de Salomon Munch, et vous pouvez voir donc très précisément les différents grades et son parcours donc à la bibliothèque, mais aussi les traitements. Et vous voyez que ces traitements étaient tout de même, et cela a été signalé, relativement modestes, ce qui poussait aussi les employés ou les surnuméraires à chercher d'autres postes, à cumuler, donc, par exemple, des postes de professeur à Langso ou au Collège de France. Donc, on voit qu'il a commencé sa carrière avec un traitement assez modeste. Il a... dans son dossier du personnel, on trouve plusieurs lettres où il essaye d'obtenir un salaire un peu plus convenable, même si, explique-t-il, ça n'est que pour 5 heures de travail journalier, puisque les conservateurs, en fait, travaillaient mais très intensément. Hein, ils ne s'occupaient pas de valorisation des collections, ils ne faisaient pas d'exposition, ils étaient vraiment concentrés sur la lecture et des manuscrits. Et donc on trouve également dans son dossier du personnel cette lettre adressée, donc c'est une lettre qui est adressée par le ministère et qui donc prend fait de la qui prend fait de la nomination de Munch. Ça, c'est le rapport du conservatoire qui s'est réuni et qui finalement donc entérine le choix de Munch un poste de surnuméraire. Et cette lettre, donc, c'est la lettre qui officialise donc la nomination de Munch à la Bibliothèque royale en 1840. Alors Munch, donc, à l'occasion de cette mission en Égypte, c'est une affaire extrêmement sordide, puisque Le consul de France a joué certainement à l'époque un rôle non négligeable dans l'accusation de meurtre rituel contre les Juifs de Damas, qui sont accusés d'avoir enlevé un capucin et son serviteur et de les avoir sacrifiés pour récupérer le sang dans le cadre d'un meurtre rituel et pour la confection de pain azim. Donc c'est, bien sûr, c'est quelque chose qui est absolument effroyable. Et le consul de France procède aux interrogatoires. Il y a eu deux membres de la communauté qui ont été bastonnés, un autre est mort. Enfin, l'opinion s'émeut de ces persécutions. Et Montefiore, qui était donc un philanthrope juif anglais, Crémieux, avocat, se mobilise pour partir et partent à la rencontrer le sultan afin d'obtenir la grâce des juifs, mais surtout obtenir que ces juifs ne soient pas simplement graciés, mais soient reconnus innocents. Et Munk fait partie de cette expédition. Il fait partie de cette expédition parce que donc il connaît l'arabe. Alors il connaît l'arabe, mais on l'embauche en quelque sorte pour ce voyage parce que il connaît l'arabe littéral et qu'il sera en mesure de lire les documents, notamment les documents juridiques, l'acte d'accusation ou tout autre document, et pourra ainsi confirmer que le message est bien passé auprès des autorités égyptiennes. Donc, il part avec Crémieux. Effectivement, il a l'occasion de jouer son rôle d'interprète. Alors, il ne parle pas couramment l'arabe. Hein, il a cette connaissance qui lui permet de lire ces documents. D'ailleurs, le document qui innocente finalement les Juifs de Damas, donc il est allé leur plaider leur cause en Égypte, ce document a été rédigé en turc ottoman, traduit mot à mot en arabe, et c'est donc lui qui en fait la traduction et qui informe Crémieux que, effectivement, ces Juifs sont bien innocentés et pas simplement... graciés, même si par la suite le consul de France a fait graver sur la tombe du Capucin une épitaphe où il réaffirme le fait que ce Capucin a été assassiné pour des raisons rituelles par les Juifs. À côté donc de ce portrait de ce Capucin, il y a une peinture d'un peintre juif, Oppenheim, qui décrit une autre affaire assez triste, qui est celle de l'affaire Mortara, qui est là cette fois-ci, c'est un enfant juif qui est retiré à Rome parce qu'il a été baptisé par sa nourrice, et c'est tout le combat de cette famille qui va essayer de récupérer cet enfant. Quand il est au Caire, il va procéder à des acquisitions de manuscrits. Il se promène dans le souk. Et il fait d'ailleurs des acquisitions très 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 intéressantes. Et je voudrais vous lire quelque chose qu'il a écrit à sa mère, parce que on a à peu près 250 lettres de Munk adressées à sa mère ou à sa sœur. Voilà. Alors par exemple, il dit, il écrit là cette fois-ci au rabbin Zadok Khan, qui deviendra par la suite son secrétaire particulier. J'ajoute que, comme orientaliste, le séjour à Alexandrie m'est de peu d'utilité. Donc il est entre le Caire et Alexandrie. Une fois qu'il a terminé sa mission au Caire, il retourne à Alexandrie. Je me trouve ici dans la ville à moitié européenne, presque entouré exclusivement d'Européens. Il n'y a que fort peu de savants mahométans, etc. Il n'y a presque pas de manuscrits à trouver. Je n'ai acheté jusqu'à présent que deux manuscrits hébreux et assez chers, à savoir le commentaire de Maïmonide sur le traité de Rosh Hashanah, qui est aujourd'hui donc hébreu 336, et des homélies en arabe par son petit-fils David. On retrouve dans le registre des acquisitions, donc les acquisitions, l'achat des manuscrits que Munk ramène d'Égypte en 1841 et qu'il vend à la Bibliothèque nationale. Et en fait, l'un de ses biographes, Moïse Schwab, fait remarquer que, eh bien, contrairement à ce qu'il affirme, mais probablement parce qu'il était très soucieux de veiller à la bonne utilisation des crédits d'acquisition de la bibliothèque royale, il était extrêmement vigilant à ne pas trop dépenser d'argent ou à obtenir un bon prix à l'acquisition de ses manuscrits. Mais qu'en tout état de cause, je crois qu'il a acheté 34 manuscrits et la somme totale de ces manuscrits est plus que correcte et certainement elle n'est pas aussi excessive que ce qu'il prétend. Alors parmi ces manuscrits, il va en acheter un très grand nombre. Alors, il va acheter des manuscrits en arabe, il connaît l'arabe bien sûr, et le choix qu'il fait des manuscrits arabes, bon, il mériterait d'aller plus le détailler, de l'étudier, parce que il me semble que certains choix n'étaient peut-être pas tout à fait judicieux, qu'il existait déjà à la bibliothèque des copies beaucoup plus anciennes et avec des colophons, avec des lieux de copies, donc des copies probablement plus intéressantes, mais néanmoins il a acheté donc ces manuscrits arabes, qui sont tout de même très intéressants. Pour les manuscrits hébreux, il a acheté un certain nombre de manuscrits, dont des manuscrits qui sont des manuscrits karaïtes. Et c'est très intéressant parce qu'il va constituer à la Bibliothèque royale le premier fonds de manuscrits karaïtes. Les karaïtes, c'est une secte dissidente du judaïsme, et une secte qui prône une approche scripturaire et littérale, et qui rejette toute l'interprétation du Talmud et la loi orale. Mais il a repéré que dans ses manuscrits et dans ses commentaires des rabbins karaïtes qui ont vécu surtout en Égypte, il y a un certain nombre d'œuvres qui ont probablement influencé Maïmonide, qui est devenu son principal sujet d'étude. Nous avons ensuite donc la page de titre de la garde plutôt de Hébreu 277 avec l'inscription au registre et la mention, ou c'est plutôt, oui c'est ça, c'est arabe, c'est ramené d'Égypte par Salomon Munk. Et parmi ces manuscrits qui sont en fait des manuscrits de texte, eh bien il fait l'acquisition d'un très très beau manuscrit qui est ce Hébreu 1203, qui est un traité, une traduction, enfin une copie en arabe en caractère hébreu du commentaire de Maïmonide sur le traité des fièvres. Je passe peut-être rapidement, parce que le temps passe, sur les publications de Munk, bien sûr sur les sciences philosophiques, et sa contribution donc principale est cette piste, cet objectif figure déjà dans la lettre qu'il écrit au ministre, et bien c'est qu'il a en fait découvert qui était le véritable auteur d'un texte très traduit en latin dont on ne connaissait que la version latine. C'est le Fons Vitae, et qui est en fait la traduction en latin d'un commentaire de Falakera sur un ouvrage de Ibn Gabirol qui est le Mekor Chaim. Il a fait d'autres découvertes. Bien sûr, dans le domaine des études indiennes, il a découvert par exemple une carte très ancienne de l'Inde. Il a également donc rédigé des catalogues. Et ces catalogues, bien sûr, sont très importants puisque il va apporter une nouvelle connaissance de tous ces fonds qui jusqu'à présent n'avaient pas bénéficié de traduction digne de ce nom. Vous avez donc d'abord à gauche le catalogue de Richard, le catalogue de l'oratoire dont nous a parlé. Non, c'est le catalogue de Reynaud, mais le catalogue de l'oratoire, c'est celui qui est plutôt à l'extrême gauche. Voilà. Et puis vous avez entre les deux, vous avez le type de catalogues que l'on trouve à l'époque, qui sont en fait des notices contre-collées sur les contre-plats des manuscrits, dans lesquels on trouve également des annotations de Munch comme celle-ci, dans le manuscrit hébreu 330, où il indique, eh bien, il fait un certain nombre d'observations sur le séquençage des feuillets, sur également des erreurs peut-être des erreurs de scribe. Bon, j'avais peut-être prévu d'autres documents le concernant, sur sa cécité, bien sûr, et en 1950, eh bien, il est obligé de quitter la bibliothèque parce qu'il est devenu complètement aveugle. Il obtient d'abord un premier congé et puis il finit par quitter définitivement la bibliothèque. Il est d'abord élu membre de l'Institut. Puis ensuite, il va travailler sur son grand œuvre, qui est donc cette histoire de la philosophie juive et arabe. Et c'est son ouvrage sur la Palestine qui le fait connaître et qui va pousser en fait Victor Duruy à le proposer, alors qu'il a laissé quand même pendant 2 ans la chaire d'hébreu vacante, après le départ de Renan. A nommé donc ce professeur juif d'origine allemande. Il y aurait fort à dire sur l'apport des savants allemands à Paris à cette époque, sur leur présence. Je peux vous renvoyer sur le colloque consacré à Renan, au cours duquel Dominique Bourrel était intervenu, et qu'on peut trouver cette intervention en ligne sur le site du Collège de France. Voilà, donc se termine avec cette photo qui évoque la nomination au Collège de France de Salomon Munch. Voilà. Donc, je suis obligé de...